Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Zoé a 19 ans, elle est étudiante en école d'ingénieur. En juillet 2009, elle fait un stage dans une scierie du sud de la France. Un jour terrible, son bleu de travail est happé par un tapis roulant et sa main broyée par ce qu'on appelle le train à rouleaux. Zoé porte plainte pour faute inexcusable, mais ce n'est pas l'entreprise qui est d'abord poursuivie, mais son école, pour ne pas s'être assurée des bonnes conditions de sécurité du stage. Zoé est rapidement indemnisée, mais l'affaire est toujours en cours car l'entreprise et l'école se renvoient la responsabilité de cette faute. Le terme de faute inexcusable n'existe pas jusqu'en 2002. On parle alors d'une faute d'une particulière gravité. Ce sont les scandales liés à l'amiante au début des années 2000 qui conduisent à ce revirement. On parle désormais d'obligation de sécurité de résultat. En gros, c'est la même obligation qui est faite à la SNCF de vous amener au terme de votre voyage dans le même état que celui dans lequel vous étiez au départ, ce qui semble à peu près logique. On évoque donc les fautes inexcusables dans le cas des accidents du travail et des maladies professionnelles, psychiques ou physiques. Il y a deux critères, nous a expliqué Maître de Romanet, pour établir une faute inexcusable: la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié et l'absence de protection. L'employeur, pourtant conscient du danger, n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour protéger ses employés. On note d'ailleurs ces jours-ci, ces années récentes, une augmentation assez significative des contentieux liés aux maladies professionnelles, mais de nombreux salariés continuent encore à se taire de peur d'être licenciés. C'est en tout cas un pan énorme de la justice, une procédure très technique et surtout très longue qui dure de 2 à 6 ans en moyenne. Derrière ces pages de dossiers, des drames familiaux, professionnels, intimes, des maladies graves, mais aussi des victoires et des décisions qui rendent la justice. Tout de suite donc, vous l'aurez compris, 3 cas de faute inexcusables par Stéphanie Thomas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Si vous voulez, moi, quand je suis tombé malade, les médecins m'avaient prévenu que c'était un état très avancé de la pathologie et donc, clairement, ils me donnaient 6 mois.
Vous aviez quoi ?
J'ai un cancer des poumons. Alors, j'ai toujours... Personne n'est capable d'expliquer pourquoi. Hein. Aujourd'hui, j'ai réussi à... j'ai subi des traitements, un traitement lourd. Aujourd'hui, je vis. Je suis content de vivre. Par contre, j'ai une dent contre la société qui m'a employé pendant 30 ans. Mais une dent à tel point que je veux même pas m'arrêter à la faute inexcusable. Je m'appelle Patrick Lacourari. J'ai 55 ans et je suis rentré dans une société qui s'appelle Saft, qui est leader mondial dans la fabrication de batteries. J'avais tout juste 18 ans et à l'époque, c'était mon premier travail. On gagnait bien notre vie, hein, donc j'étais très content. On pensait être dans un environnement très sécuritaire et s'est avéré quelques années plus tard que ce n'était pas le cas. Donc, les produits qu'on utilisait, il y avait beaucoup de produits. Hein. On était dans l'industrie, donc il y avait tout ce qui était cadmium en priorité. Le cadmium et le nickel, voilà, ce sont deux métaux lourds, très lourds, qu'on ne peut pas balancer partout dans la nature. Donc, moi, j'ai connu l'époque où on travaillait le cadmium, les plaques de cadmium, on les brassait à main nue. On n'avait même pas de gants, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de système d'aspiration. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, pour nous... C'était normal de travailler avec ces produits, c'était normal de passer la soufflette, de passer le balai. On travaillait dans un environnement poussiéreux. Par contre, l'entreprise ne nous empêchait pas de faire des repas dans les ateliers. On mangeait dans les ateliers, on fumait dans les ateliers. On vivait normalement avec un produit qu'on a appris par la suite très dangereux. Et c'est l'arrivée d'Internet qui a tout déclenché en vérité. C'est 98-99, donc c'est simple, hein. On tapait cadmium et là ça nous donnait les fiches techniques du cadmium et là on s'est rendu compte de la dangerosité du produit. Donc premièrement il se cumule dans l'organisme, c'est-à-dire qu'il se cumule dans le sang, il se cumule dans les reins. Donc ça provoque un dysfonctionnement des reins Et l'inhalation provoque, on va dire, des cancers ou des pathologies des voies aériennes, c'est-à-dire tout ce qui est gorge, tout ce qui est poumon. En vérité, le cadmium est c'est un sale produit, clairement. C'est arrivé en 2011, hein, j'étais quelqu'un qui avait plusieurs mandats dans l'entreprise, donc qui voyageait, hein, qui faisait Paris, Bordeaux, Poitiers, j'étais jamais chez moi, clairement. Hein. Je partais tous les jours, j'avais des journées qui faisaient 12h, 15h, quelqu'un qui est en pleine forme, qui est en pleine vitalité, et le mois d'août 2011 est arrivé, je suis en partie en vacances avec ma famille, et en rentrant de 15 jours de vacances, je me sentais aussi fatigué qu'en partant. Donc, je vais chez le médecin. Oh, il m'a dit, monsieur Lacouari, vous devez mal dormir. Donc, il m'a renvoyé chez un pneumologue pour faire des tests sur l'apnée du sommeil. Donc, je suis arrivé chez la pneumologue, elle m'a fait passer un scanner. Et là, quand je retourne le 10 novembre exactement voir ma pneumologue, elle me dit, écoutez, monsieur Lacouari, vous avez quelque chose de pas bon, vous êtes très malade, donc vous allez arrêter de travailler tout de suite. Et là, mon activité professionnelle s'est arrêtée à ce moment-là, sachant qu'on ne savait pas trop ce que c'était. C'est enchaîné tout un tas d'examens. Hein. J'ai eu un mois et demi d'examens parce que les spécialistes trouvaient bizarre qu'à 47 ans, on arrive avec un truc monstrueux comme ça. Et là, c'est tombé. Hein. C'est tombé en décembre. C'était un cancer des poumons, un stade très avancé. Et clairement, il me restait en gros 6 mois à vivre. Donc, pendant les traitements, c'était compliqué. C'est des traitements qui sont lourds, très lourds. C'est-à-dire que la radiothérapie, ça a été au maximum de ce que pouvaient faire les rayons. La chimiothérapie, ça a été des produits qu'on n'arrive pas à digérer. Et derrière les traitements, il y a eu le doute. Il y a eu le doute de savoir est-ce qu'elle allait m'arriver. Il y a eu mon licenciement. Donc, quelqu'un qui passait 15 heures de sa vie dans son entreprise, qui était toujours parti à droite et à gauche, et qui d'un seul coup se retrouve sans activité professionnelle, sans même activité, parce que la fatigue faisait que je ne pouvais plus rien faire, et bien ça fait une famille qui explose. Je suis tombé sur une pneumologue qui a été géniale et qui m'a dit, voilà, qu'est-ce que vous avez pu faire pour avoir ce que vous avez à 47 ans? Et là, on est arrivé sur le terrain professionnel. Et en vérité, c'est cette pneumologue qui m'a lancé sur la voie de la maladie professionnelle. Je savais que ça existait, j'en avais entendu parler. Et quand j'ai dit à mes collègues, je vais faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, la première chose qu'on m'a dit, tu vas te faire virer. Et je leur ai simplement répondu, qu'est-ce que j'en ai à foutre de me faire virer? De toute façon, je vais mourir. Parce qu'on m'avait dit que j'allais mourir. Parce qu'il y avait quand même ce spectre que mettait en face l'entreprise. Si vous nous embêtez, on ferme. Le directeur général, le directeur d'établissement, les chefs d'atelier, tous ceux qui avaient des responsables dans l'entreprise nous tenaient le même discours. Arrêtez, vous allez faire fermer l'entreprise. Et j'ai regardé ce que pouvait entraîner une maladie professionnelle et quelles procédures je pouvais faire contre mon employeur, ce que j'ai mis en place. Donc, la Sécurité sociale a découvert à ce moment-là que l'entreprise nous faisait prendre des risques et a reconnu aussitôt la maladie professionnelle qui a été aussitôt contestée par mon entreprise. Hein, parce que l'entreprise a utilisé toutes les ficelles, en vérité, pour faire durer le temps. C'est-à-dire que ma procédure a duré en gros 7 ans. Donc ils savaient que j'avais un cancer, un stade 3B, qui est un cancer très avancé. Oui, clairement, ils attendaient que je décède pour que la procédure s'arrête. Aujourd'hui, je le dis ouvertement. Ils sont très cyniques. Je les ai pratiqués pendant 17 ans en tant que représentant du personnel. Ce sont des gens qui vivent uniquement pour l'économique. Il n'y a pas d'aspect humain dans cette entreprise. Je côtoyais les gens de la direction générale. On avait des grosses réunions. On avait des réunions qui duraient des fois des heures et des heures et des heures. Et jamais il y en a un qui a pris de mes nouvelles. Jamais. Quand vous êtes malade, c'est extrêmement choquant de voir que ces gens-là s'en foutent clairement. Lorsque la maladie professionnelle a été reconnue, hein, on est le 23 juillet 2012, j'ai pris mes bouquins de code du travail, j'ai pris les procédures, et là je me suis rendu compte qu'il y avait une procédure à faire contre son employeur qui s'appelle la reconnaissance de la faute inexcusable. Donc j'ai regardé comment ça se constituait, j'ai très vite vu que c'était pas quelque chose que je pouvais faire seul, donc je me suis rapproché d'un cabinet d'avocats spécialisé qui a commencé à m'expliquer les documents qu'il fallait que je récupère. Donc, j'ai dû amener 15 ans de PV de CHSCT à l'avocat. Le CHSCT, c'est le comité d'hygiène et de sécurité au travail. Donc, ça représentait 13 kilos de documents. Tous les problèmes de cadmium liés au cadmium étaient dans ces PV-là. Donc ça veut dire que depuis 97, on alertait l'entreprise des dangers du cadmium, de ce qui n'allait pas au niveau des aspirations, des poussières. Et il y avait leur réponse qui disait « mais ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien, on vous le dit ». La faute inexcusable, elle était prouvée. Après, effectivement, l'avocat a fait un travail de recherche où il s'est aperçu que le cadmium, les méfaits du cadmium étaient connus depuis 1948 et qu'une société qui se dit leader mondial ne pouvait pas ne pas connaître ces dangers-là. Donc après, par contre, l'entreprise a utilisé tous les superfuges, on va dire. Il faut savoir qu'il y a seulement 2 ans, ils ont même réussi à me faire monter à la salpêtrière pour une expertise. J'avais 3 médecins en face de moi, enfin c'était un truc. On était en train de contester le fait que j'ai bien un cancer des poumons. Et donc la Cour d'appel de Bordeaux a reconnu le 7 mars 2019 la faute inexcusable de mon employeur sur ce sujet-là. L'indemnisation décidée par la Cour d'appel est à hauteur de 95 000 euros. Donc je faisais pas ça pour l'argent. Je faisais vraiment ça pour dire voilà, il va rester des traces, même si l'argent je vais le prendre. Mais c'est les écritures de la Cour d'appel quand je les ai eues qui m'ont. C'est une satisfaction. Mais je veux aller plus loin parce que la faute inexcusable, on parle de quoi? On parle d'argent, mais l'entreprise, l'argent, elle en a plein. Hein. Par contre, oui, aujourd'hui, je veux aller chercher des responsables, c'est-à-dire les gens qui ont pris les décisions qui font qu'aujourd'hui on a des gens qui meurent, on a des gens qui sont malades. Je veux regarder comment faire pour aller chercher ces responsabilités-là. Moi, on m'a expliqué qu'en vérité, ma pathologie que j'ai déclarée à l'âge de 47 ans, elle venait de mon exposition quand j'étais jeune. Mes immunités n'étant pas faites, le cadmium a fait son travail à ce moment-là, en vérité. Donc, j'ai vécu 30 ans de ma vie avec une maladie qui était en suspens et qui s'est déclarée. Moi, je me suis rendu compte de rien. Aujourd'hui, j'ai des cicatrices qui me gênent. J'ai tout mon organisme qui est déréglé par les traitements que j'ai eus. C'est très compliqué, mais bon. C'est surtout que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Et aujourd'hui, on apprend environ tous les 2 mois qu'on a un collègue, soit qui est malade, soit qui décède. Donc c'est toujours la même chose, hein. Ce sont des cancers. Dernièrement, c'est cancer des poumons. Hein. Alors, ça m'a particulièrement choqué parce que la personne était rentrée le même jour que moi, au même poste que moi. Donc on a travaillé pendant des années et des années ensemble. Il avait quitté l'entreprise il y a une dizaine d'années et il est décédé à 59 ans. On a assisté à son enterrement il y a 15 jours. Et aujourd'hui, j'ai toujours des collègues qui travaillent face au danger.
Moi, j'habite à proximité de l'Espart Médoc, dans un petit village qui s'appelle Bégadan. C'est le plus grand village viticole planté au niveau superficie dans la région de Bordeaux. Avec mon mari, on s'est installé en 2003 au château Vernousse. Après, par la suite, on a acheté une maison dans un petit village et nous étions ouvriers viticoles. Le château pour lequel je travaillais faisait 23 hectares à l'époque. Mon mari s'occupait du chai, de la vigne. Moi, essentiellement de la vigne. Je taillais, ce qui était quasiment la première femme à tailler dans le Médoc, et à conduire le tracteur. On me regardait un peu bizarrement d'ailleurs, comme une extraterrestre. Et on s'occupait des travaux en verre. Ce qu'on appelle travaux en verre, c'est à partir du moment où il y a de la végétation. Épamprage, débourgeonnage, dédoublage, relevage. Et puis après, il y a toute la partie ramassage de raisins, les vendanges. Et après, il y a eu la vinification. Donc, on a fait à travailler 13 ans jusqu'à mon intoxication en produits chimiques. Alors, on commençait nos relevages. Le relevage, c'est monter les fils pour pouvoir monter la végétation. Dans la semaine, il y avait eu 2 épandages de produits chimiques. D'abord, le premier, c'était épamprage chimique, c'est-à-dire c'est une sorte de désherbant qu'on passe au pied de la vigne. Et en fin de semaine, le jeudi, il y a eu un fongicide plus un engrais foliaire qui a été passé. contre le mildiou et l'odium. Donc on se plaignait assez souvent parce que c'est nous on est amené à travailler 8 heures dans la végétation. Donc on a 8 heures durant les mains dans la végétation, le nez penché en avant. Donc on a les émanations en fonction du temps qu'il fait aussi. Donc il y a des évaporations. Donc c'était un produit qui était quand même assez agressif. Donc nous quand on est intervenu avec ma collègue, il y avait énormément de rosée ce matin-là. La température est montée assez rapidement. Donc, comme on avait reçu des éclaboussures au visage, on a senti des brûlures au visage, les yeux qui pleuraient, la gorge qui brûlait, la bouche, l'œsophage et l'estomac. Et moi, j'ai commencé à avoir des aphtes dans la bouche. Donc, midi arrive, on a prévenu le chef. On est parti, on a pris une douche et voilà, les journées ont passé. Le médecin, il n'a pas voulu me recevoir de suite, il m'a reçu 15 jours après. Et puis, la semaine d'après, on a continué notre travail de relevage. Puis les semaines ont suivi, jusqu'au jour où vraiment mon état de santé déclinait de jour en jour. Je ne supportais plus la lumière, je ne supportais plus le bruit, je ne pouvais plus manger, je perdais du poids, j'avais des fatigues extrêmes. Là, vraiment, c'était une réaction... brutale, comme ils appellent ça, une intoxication aiguë. Et on a eu connaissance d'une visite médicale chez le médecin du travail. Donc j'ai demandé à mon chef de culture, celui qui s'occupait de l'exploitation à cette époque-là, de me donner la liste auquel on a été exposé. Et tant bien que mal, il m'a fait cette liste. Et on l'a donnée au médecin du travail qui a lancé une enquête phytattitude. Cette enquête, elle a mis plus de 2 ans à revenir. Et en plus de ça, ils avaient oublié la moitié des produits. Donc, j'ai vu un professeur à Bordeaux et qui m'a dit, voilà, c'est la maladie de Parkinson dont vous souffrez. Ça, c'était au mois d'avril 2016. Tous ces symptômes sont partis à partir de cette intoxication aiguë. Je ne les avais pas avant. L'intoxication a été le facteur déclenchant de toutes mes années de galère. Donc, la première étape, c'était faire connaître ma maladie de Parkinson. Avec l'aide de l'avocat François Laforgue, il a étayé mon dossier de façon à ce qu'il ne soit ni rejetable, ni classé sans suite, entre guillemets. Et à partir du moment où on a eu l'accord de maladie professionnelle au mois de janvier, on a vraiment commencé à parler de cette intention de porter plainte pour faute inexcusable. Pour moi, c'est faire reconnaître que le château était responsable de mon intoxication, de mon accident qui n'avait pas été déclaré comme tel, hein, puisqu'il n'y avait pas eu de déclaration d'accident de travail fait par le château en 2012. Malgré nos relances, puisqu'ils ont été informés le jour de l'intoxication, une semaine après, quand on a demandé la liste des produits chimiques. Donc voilà, il a eu largement le temps de faire la déclaration d'accident de travail, ce qui n'a pas été fait. Et alors les EPI, qu'on appelle équipements de protection individuelle, logiquement, c'est les châteaux qui doivent les acheter pour nous protéger. Il faut qu'ils soient non seulement adaptés aux travaux qu'on fait, aux produits auxquels on a été exposé. Il faut qu'ils soient adaptés à notre morphologie aussi. Parce que c'est facile de nous donner des gants, comme il y avait au château, taille 10. Mais les tailles 10, moi je fais du 6, 6,5. Voilà. Donc les gants, on les achète à Carrefour, à Leclerc. C'est des gants de vaisselle. Alors c'est pas ni adapté, ni... Donc, il fallait que le château soit condamné. Comme il n'a pas fait les démarches ni de protection, ni d'information, ni de formation, il fallait que quelqu'un reconnaisse qu'il y a eu une faute et que ça ne recommence pas, surtout. Donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai décidé d'entamer cette procédure, bon, auquel je ne m'attendais pas qu'elle soit aussi rude à traverser. Le 26 mars, le tribunal de grande instance de Bordeaux a reconnu que le château Vernous ne m'avait pas protégée et ne m'avait pas informée et ne m'avait pas formée non plus à l'usage et au contact des produits chimiques. 7 ans après, je suis toujours salariée au château Vernous et j'attends la décision du médecin du travail pour savoir si oui ou non je dois retourner au château pour reprendre mon poste. Ce qui n'est pas possible dans le sens où mon médecin m'interdit la proximité aux produits chimiques. Donc je n'ai pas mis les pieds au château depuis avril 2016, hein, donc je ne sais pas ce qui s'y passe et ça ne me regarde pas, puisqu'on m'a bien fait clairement que mon contrat était suspendu et que voilà, ce qui est au château doit rester au château. Donc on est tellement confronté au non-dit dans le Médoc, il ne faut pas parler de produits chimiques, d'intoxication, ou alors on se le dit dans les maisons fermées. On en parle, hein, mais faut pas que ça se sache. C'est un sujet tabou.
Je suis François Lisowski, j'ai 68 ans et je suis retraité depuis 5 ans. En fait, j'ai effectué toute ma carrière professionnelle dans un grand groupe français de l'industrie chimique, en qualité d'ingénieur cadre. Rhône Progil d'abord, ensuite Rhône Poulenc, puis Rodia, puis Solvay, au gré des restructurations de l'entreprise. Et je crois qu'il convient d'expliquer, parce que certains mettent en doute qu'un cadre puisse être exposé. Mais enfin, dans ce métier, c'est quand même des métiers de maintenance, en fait. Vous êtes effectivement en partie dans les bureaux, mais également vous allez sur le terrain, ne serait-ce que pour, au départ, bien définir le cahier des charges du projet. Et une fois que ce cahier des charges est réalisé, que les études sont lancées, il convient d'aller régulièrement sur le site et aussi lorsqu'on passe en phase de réalisation, le métier veut qu'on rentre dans certaines installations, dans des capacités, donc des réservoirs, dans des appareils. Ça fait partie du métier et que ce soit un cadre ou un technicien, on est nécessairement amené à le faire. Et de 91 à 99, j'ai été effectivement en charge du bureau d'études de Rhône Poulenc Nutrition Animale dans une usine située près de Montluçon, dans l'Allier. Cette usine était spécialisée dans la fabrication de produits de supplémentation d'alimentation animale. Et en l'occurrence, il y avait des acides aminés comme la méthionine et aussi un atelier de vitamine A, de synthèse. Faut savoir que ces ateliers, ce sont des procédés complexes et vous avez effectivement l'élaboration de produits intermédiaires et qui combinés, en fait, in fine, font le produit fini. Et en l'occurrence, il y avait un produit qui est un intermédiaire où il y a eu assez rapidement des doutes sur sa toxicité et sur son pouvoir mutagène ou cancérigène. Ça s'appelait le chloracétal C5. En 2009, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé faire une radio de mes poumons. Et en fait, le radiologue avait détecté une tache au niveau des poumons. Il a engagé le fait que je fasse un scanner. Et à la lecture du scanner, il m'a dit « Écoutez, il n'y a absolument rien sur vos poumons. Donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, vous avez comme un kyste ou une tumeur assez importante au niveau du rein. » J'ai ensuite rencontré très rapidement un chirurgien à l'hôpital de Colmar, qui m'a dit, bah, écoutez, des cas comme ça, j'en traite un par semaine, donc 50 par an. Et sur ces 50 cas, 49 sont des cas de cancer du rein. Donc en fait, j'ai eu une intervention en décembre 2009. Je voulais pas y croire. Et en fait, les résultats d'analyse qui ont été donnés ont effectivement confirmé qu'il s'agissait bien d'un cancer du rein. Et j'ai eu l'ablation à peu près de, on va dire, je pense, une moitié du rein gauche. dès le début de mon arrêt maladie, en fait, j'avais fait des recherches un petit peu sur Internet et il y avait effectivement pas mal d'articles consacrés au cancer du rein sur le site industriel où j'avais été exposé à cette substance. Et sur une population qui a opéré entre 1994 et 2000, il y avait au niveau de la population masculine 12 fois plus de cancers du rein que la moyenne nationale. Donc, je suis tombé du placard parce que j'y croyais pas trop. Et au niveau des cancers du rein, ils en ont recensé 40. Enfin, il y en a 45 d'enregistrés, dont encore un en 2017, un en 2018. Moi, à l'époque où j'ai fait la déclaration, je crois qu'il y en avait une trentaine. Et sur ces 45 personnes, 14 sont déjà décédées. Pourquoi j'ai poursuivi en faute inexcusable? Alors, vous avez accès à votre dossier quand vous constituez votre dossier de déclaration maladie professionnelle. Il y a une enquête. Et dans ce dossier, il y avait effectivement le courrier qui a été adressé par l'entreprise et qui réfutait le fait que j'ai pu exposer et qui néanmoins me souhaitait un bon rétablissement alors qu'il m'a jamais, personne ne m'a jamais contacté. J'ai trouvé que c'était assez hypocrite comme démarche. Et la faute inexcusable a été tranchée il y a un an déjà au tribunal administratif de la sécurité sociale. Et ensuite, en fait, cette démarche en faute inexcusable, elle conduit à ce que la sécurité sociale, mais aujourd'hui aussi l'entreprise concernée, finance les dommages corporels ou dommages d'agrément que vous avez, les préjudices que vous avez subis depuis la maladie, quoi.
Et alors, à combien a été estimé votre le préjudice, votre vie, elle vaut combien aux yeux de votre entreprise?
Les préjudices. Si les choses en restent là, l'évaluation des dommages qui a été élaborée en ce qui me concerne, elle est de l'ordre de 50 000 euros. Je m'attendais à un peu plus.
C'était Faute inexcusable, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Lise Combe avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Maître Laforgue, à Maître de Romanet, à Sylvie Noni et à Elisabeth Drevillon. C'est Jeanne Delocroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.